Ces petits contes sont issus d'un livre Fables de la Chine antique, édité à Pékin en 1958, sous la direction de Wei Jingzi, célèbre écrivain chinois contemporain. Deux petits contes chinois attribué à Han Fengzhi, qui vivait vers 250 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Qin Shi Huangdi, connu pour son armée de terre à Xi'an. Pourquoi Jen Shen tua son cochon? Un jour, la femme de Jen Shen se préparait à sortir. Mais la voyant prête à partir, son fils poussa les hauts cris, voulant sortir avec elle. Pour se débarrasser de lui, sa mère lui dit « Reste ici bien sagement. Quand je serai de retour, on tuera le cochon et tu en mangeras un bon morceau. » En rentrant à la maison, elle vit avec stupéfaction que son mari faisait des préparatifs pour tuer le cochon. « Comment ? » dit-elle. « Tu vas le faire pour de bon ? Mais quand je parlais de tuer le cochon, c'était pour calmer le petit. » « Tu avais tort de parler ainsi, » répondit Jensen, « car dans ses actions, ce sont toujours son père et sa mère qui imitent l'enfant. En mentant à ton fils, tu lui apprends à mentir. S'il vient à s'apercevoir que tu le trompes, il n'aura désormais plus confiance en toi. N'est-ce pas une fort mauvaise éducation que tu donnes à ton fils ?» Et Jensen tua effectivement le cochon. La lance et le bouclier. Il y avait autrefois un armurier qui vendait des lances et des boucliers. Il prit un bouclier et déclara « Voilà mon bouclier. Il est si solide qu'aucune arme, si tranchante soit-elle, ne saura le percer. » Ensuite, il prit une lance et dit « Voilà ma lance. Elle a une pointe si affilée qu'aucune arme défensive, si solide soit-elle, ne saura lui résister. » Un homme de l'assistance que ses vantardises faisaient rire sous cap se détacha du groupe et s'adressa au marchand. « À ce que vous dites, votre lance est si pointue que rien ne saura lui résister, et votre bouclier est si solide que rien ne saura le percer. C'est fort bien. Mais si vous prenez votre lance et foncez sur votre bouclier, qu'arrivera-t-il ? » Pris au dépourvu, notre marchand resta tout penaud, ne sachant que répondre. L'élixir d'immortalité. Le bruit courait que dans la montagne, à quelques milliers de lieues de la capitale, vivait un vieux moine taoïste qui détenait le secret d'un élixir d'immortalité. Ayant eu vent de la chose, le roi envoya un grand dignitaire chercher le secret. Mais quand le messager arriva sur les lieux, le moine venait de mourir. Furieux, le roi accusa le dignitaire de s'être mis en retard par manque de diligence et le condamna au châtiment suprême. Voilà un roi qui n'était pas un parangon de sagacité. Il ne lui était, en effet, même pas venu à l'idée que si le moine avait possédé un élixir d'immortalité, il ne serait pas mort. Conte de Mencius, disciple de Confucius, qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Une leçon d'échec. Il y avait autrefois un joueur d'échecs renommé qui s'appelait Chiu. Personne ne pouvait l'égaler et il n'avait jamais rencontré d'adversaire digne de lui dans la région. Chiu enseignait à deux jeunes gens l'art des échecs. L'un d'eux s'appliquait beaucoup et suivait les explications du maître avec attention, alors que l'autre était distrait. Il était bien là comme son camarade, ayant l'air d'écouter, les yeux fixés sur le jeu, mais en réalité sa pensée était ailleurs. Il songeait tout le temps aux oies sauvages qui passaient dans le ciel et dont il lui semblait entendre les cris. Et il aurait voulu prendre son arc et aller en abattre quelques-unes. Il en résulta que le premier élève devient vite un joueur d'échecs consommé, tandis que l'autre, bien qu'il eût passé beaucoup de temps à apprendre ce jeu, n'en retint que quelques vagues rudiments. Était-ce que son camarade était plus doué que lui ? Que non pas ! Il faut en chercher ailleurs la cause. L'agriculteur impatient. Dans le royaume de Song vivait un homme si peu patient qu'il voulait absolument voir les jeunes plants de riz pousser à vue d'œil dans les champs. Un jour, il s'avisa d'un expédient. Il entra dans le champ, saisit chaque plant l'un après l'autre et les tira légèrement de terre. Puis, harassé par sa besogne, il rentra chez lui et dit au sien « Quel travail, j'en suis tout moulu !»« Mais les plants de riz ont bien poussé !» Son fils incrédule s'en fut voir. Hélas, les pauvres plants commençaient à se flétrir. Trouvé inutile de biner les champs et laisser les champs sans soin est certainement une erreur. Mais s'ingénier à les faire pousser en les tirant de terre est un travail non seulement inutile, mais encore très nuisible. Le voleur de poulets. Un homme avait pris l'habitude de voler les poulets de ses voisins et ne laissait pas passer un seul jour sans en voler un. Un ami lui dit « C'est très mal de voler. Tu dois absolument te débarrasser de cette manie. » Le voleur répondit « Tu as raison. Je sais bien que c'est mal de voler le bien d'autrui. Mais cela est devenu une habitude dont il m'est difficile de me défaire d'un coup. Désormais, je tâcherai de voler moins souvent. Je volais un poulet tous les jours. À partir d'aujourd'hui, j'en volerai un tous les mois. L'année prochaine, j'aurai complètement cessé de voler. Qu'en penses-tu ? » S'il est bien établi que le vol est une pratique malhonnête, nul besoin de délai pour s'en abstenir. Le plus tôt et le mieux, à quoi bon attendre l'année prochaine ? L'usage de la métaphore. Quelqu'un essaya de discréditer Wuxi auprès du roi des Liang. Wuxi fait un usage trop fréquent de la métaphore. Il ne sait pas s'exprimer autrement. Le roi dit « Vous avez raison ». Le lendemain, Wuxi s'étant présenté devant le roi, celui-ci lui dit « Désormais, quand vous aurez à me parler, je vous prie d'aller au but sans user de métaphore. » Le ministre répondit « Supposons un homme qui ne sait pas ce qu'est une catapulte. Si vous le demande quelle est la forme de cette catapulte et que vous lui disiez « La catapulte a la forme d'une catapulte », comment voulez-vous qu'il puisse se la figurer ?»« Pour sûr qu'il ne le peut pas, » acquiesça le roi. Wuxi poursuivit « Si vous lui disiez que la catapulte ressemble à un arc dont la corde est faite de bambou et que c'est une machine de guerre pour envoyer des boulets, alors vous comprendra-t-il ou non ? » Le roi dit « Il comprendra. » Prendre une chose connue de tous pour décrire par comparaison ce que votre interlocuteur ne connaît pas encore, c'est un moyen de la lui faire comprendre. Maintenant, si vous me défendez l'usage des métaphores, quel moyen me restera-t-il ? Vous avez raison, dit le roi. Le hibou déménage. Un hibou voyageait vers l'est. Fatigué, il s'arrêta dans un bois pour se refaire. Là, il rencontra une tourterelle qui, elle aussi, se reposait. À la vue du hibou qui semblait essoufflé, la tourterelle demanda « Où allez-vous ? Vous semblez bien pressé. » Le hibou répondit « Je déménage. Je vais vers l'est pour trouver un nouveau logis. » La tourterelle reprit « Pourquoi voulez-vous vous en aller ?»« Parce que les gens de l'ouest me détestent. Ils disent que ma voix est désagréable. Je ne peux plus y tenir. Il faut absolument que je m'en aille. » « Puisqu'il en est ainsi, dit la tourterelle, votre déménagement ne résoudra rien. Où que vous alliez, vous rencontrerez le même accueil. Que ne changez-vous de voie au lieu de changer de demeure ?» Un docteur S-Lettres achète un âne. Un docteur S-Lettres avait acheté un âne et furent chargés de rédiger l'acte de vente. Après avoir couvert de caractères 3 pages entières, ils n'avaient pas encore écrit le mot « âne ». Par Yann Zidoui, 6e siècle. L'arbitre des élégances. Zhuji, du royaume de Qi, avait une taille de plus de 80 pouces. C'était un fort bel homme. Un jour, il s'habilla avec grand soin, se regarda dans le miroir et dit à sa femme « Lequel est le plus beau ? Le seigneur Su, qui habite le quartier nord, ou moi ?» Sa femme répondit « Tu es bien plus beau que le seigneur Su. » Cependant, le seigneur Su passait généralement pour le plus bel homme du royaume. Que lui, Zhu, fût encore plus beau. C'est ce qu'il avait peine à croire. Il s'adressa donc à sa concubine. Qui te paraît le plus beau, le seigneur Su ou moi ? La concubine répondit, le seigneur Su t'est bien inférieur. Quelques instants après, un de ses protégés vint lui faire visite. Au cours de la conversation, Zhuji renouvela encore une fois la question. « Qui est le plus beau, le seigneur Su ou moi ?» Et l'homme de répondre, « Vous êtes bien plus beau que lui !» Le lendemain, le seigneur Su vint en personne lui rendre visite. Il put donc examiner à loisir cet homme qui lui parut d'une beauté incontestablement supérieure à la sienne. Il prit de nouveau le miroir, qui lui confirma cette vérité. Il était évident que le seigneur Su était le plus beau des deux. Le soir, quand Zhuji se fut couché, il repensa à son aventure. Voici la conclusion qu'il en tira. Si ma femme a dit que j'étais plus beau que le seigneur Su, c'est qu'elle était partiale. Si ma concubine a exagéré ma beauté, c'est qu'elle avait peur de moi. Si le visiteur a fait de même, c'est qu'il avait quelque faveur à me demander. La vertu de patience. Un mandarin, sur le point de rejoindre son premier poste officiel, reçut la visite d'un très bon ami qui venait lui dire au revoir. « Sois patient surtout, lui recommanda son ami, et tu ne rencontreras aucune difficulté dans tes fonctions. » Le mandarin dit qu'il s'en souviendrait. Son ami lui répéta la même recommandation à 3 reprises, et à chaque fois, le futur magistrat promit de suivre son conseil. Mais quand le même avis fut renouvelé 4e fois, il éclata. « Tu me prends donc pour un imbécile, voilà 4 fois que tu me répètes la même chose. »« Tu vois que ce n'est pas facile d'être patient. Je n'ai fait que répéter mon conseil 2 fois de plus qu'il ne convient. »« Et te voilà déjà en colère, » soupira l'ami. » Par Xu Tao, 15e siècle. Celui qui aimait l'argent plus que sa vie. Les gens de Yongzhou sont de très bons nageurs. Un jour, l'eau du Sichuan monta subitement. Une barque transportant 5 ou 6 personnes chavira au milieu de la rivière. Faisant face au danger, les passagers nagèrent vers le rivage. L'un d'eux, bien que nageant de toutes ses forces, semblait ne pas avancer. Ses compagnons lui dirent « Tu es meilleur nageur que nous, pourquoi restes-tu en arrière ?»« J'ai 1000 sapèques attachés à ma ceinture, c'est lourd, » dit-il. « Pourquoi ne les jettes-tu pas ?» lui dirent les autres. Il secoua la tête sans répondre, mais la fatigue l'envahissait. Ceux qui avaient déjà gagné la rive lui criaient « Tu es trop bête, ne t'entête plus, tu vas te noyer. Alors à quoi te servira cet argent ?» Il secoua de nouveau la tête. Peu après, l'eau l'engloutissait. Les ruses du chasseur. Le cerf craint le loup craint le tigre, et le tigre craint le grand ours, le plus féroce des animaux. Le crâne recouvert de longs poils, semblable à une tignasse, marchant debout sur ses pattes de derrière, il est extraordinairement fort et s'attaque même à l'homme. Au sud de l'état de Chu, vivait un chasseur qui, sur sa flûte de bambou, arrivait à imiter toutes sortes de cris d'animaux. Muni d'un arc et d'un petit pot de grès au fond duquel couvaient quelques braises, il se rendait dans la montagne et imitait l'appel du cerf. Croyant retrouver un de leurs frères, des cerfs arrivaient et le chasseur les tuait avec des flèches enflammées. Un jour, en l'entendant imiter le cri du cerf, un loup accourut. Le chasseur, pris de frayeur, lança un rugissement de tigre. Le loup s'enfuit, mais là un tigre parut. Terrifié, l'homme imita le grognement du grand ours. Le tigre s'enfuit, mais croyant rencontrer un de ses semblables, un ours énorme se présenta. Ne trouvant qu'un homme, il se jeta sur lui, le mit en pièces et le mangea. Les contes du batelier. Aizi vit un jour un piéton offrir 50 sapèques à un batelier en lui demandant de le conduire de Luoyang à Pengben. Pour quelqu'un qui ne transporte pas de marchandises, lui dit le batelier, le prix est d'ordinaire de 100 sapèques. Vous en offrez la moitié, ce n'est pas assez. Mais comme il faudrait que je paye un homme 50 sapèques pour aller mon bateau de Luoyang à Pengben, je ne vous en demanderai que 50 si cela vous va de aller mon bateau jusqu'à Pengben. »